France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a les faux médicaments dans tous les marchés du Togo. Les faux médicaments, ça existe beaucoup.
C'est pas permis à tout le monde d'aller à la pharmacie pour pouvoir acheter des produits pharmaceutiques.
Le marché illicite du médicament y a trouvé une opportunité de taille pour grandir parce que la demande, elle était là. Et pour beaucoup de gens, il vaut mieux prendre ça plutôt que rien du tout.
Il y a les dégâts sur la santé publique, les morts qui se comptent maintenant par milliers et puis ce trafic alimenté des réseaux criminels.
Antibiotiques, antidouleurs, antipaludéens ou traitements contre l'impuissance, vous pouvez trouver de tout, des médicaments les plus anciens ou plus innovants, en boîte ou à l'unité. Mais au lieu de vous guérir, ils risquent d'aggraver votre état de santé ou même de vous tuer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur 10 dans le monde est une contrefaçon. Il peut être mal dosé ou contenir une toute autre substance que celle indiquée. Ces médicaments falsifiés ou de qualité inférieure proviennent le plus souvent d'Asie, fabriqués en Chine, en Inde ou au Pakistan, et 42% des saisies se font en Afrique, où la faiblesse des systèmes de santé et la pauvreté ont favorisé l'émergence de ce marché parallèle. D'après les calculs de la Fédération internationale de l'industrie du médicament, un investissement de 1 000 $ peut générer 500 000 $ de profit, ce qui rendrait les faux médicaments plus rentables que la plupart des stupéfiants. Peu réprimé, ce marché lucratif attire donc les organisations criminelles et contribue de plus en plus largement au financement du terrorisme. Les conséquences sont dramatiques. Le trafic de faux médicaments est responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique. Faux médicaments, la plaie de l'Afrique, c'est un reportage signé Isabelle Souquet. Invité de ce grand reportage, Aline Planson, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été responsable du programme international de lutte contre la criminalité pharmaceutique d'Interpol de 2006 à 2016. Vous avez fondé l'ONG PMEDS, dédiée à la lutte contre les faux médicaments. Et vous avez écrit « Faux médicaments, un crime silencieux », un livre paru en janvier aux éditions du Cerf. Alors nous allons écouter ensemble le reportage d'Isabelle Souquet. Isabelle, pour comprendre pourquoi ce trafic de faux médicaments est si florissant en Afrique et pour voir comment il est combattu, vous vous êtes rendue au Togo.
Oui, au Togo, parce qu'il s'y tenait en janvier dernier un sommet pour la lutte contre le trafic de faux médicaments, baptisé l'Initiative de Lomé. 6 chefs d'État ou leurs représentants s'y sont retrouvés pour tenter d'abord de faire front ensemble face à cette menace, et puis aussi pour mettre au point des stratégies de contrôle et de répression qui soient enfin efficaces. Et je dis enfin parce que ce n'est évidemment pas la première fois que ce sujet était sur la table. Le Togo, qui connaît comme tous les autres pays exactement tous les problèmes de trafic, alors avant le sommet, autant aller voir comment ça se passe dans les rues et les marchés de Lomé, la capitale.
Et justement, vous nous emmenez tout de suite sur un marché de Lomé.
Je m'appelle Alexandre Badiagoma. Je suis le président de l'ONG Foi Togo. C'est une organisation non gouvernementale qui lutte contre les faux médicaments au Togo.
Où est-ce que nous sommes ici?
Nous sommes au marché de Gbassimé. C'est un marché au cœur de la ville de Lomé où on peut retrouver un peu de tout.
Il y a de la viande, des légumes, des pagnes, de tout, et puis aussi des médicaments.
Et puis aussi des médicaments. Beaucoup, il y en a un peu partout dissimulés dans les marchandises. Puis il y a certains qui sont exposés.
Alors juste devant nous, il y a une dame qui vend des médicaments dans deux grandes bassines. Là, qu'est-ce qu'on y a vu dans ces bassines comme type de médicaments?
On a vu beaucoup de médicaments avec des noms bizarres, des antalgiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, puis également des médicaments dans des boîtes tellement bizarres.
Et alors vous, votre métier en quelque sorte, c'est de venir sur les marchés pour expliquer aux gens que ces médicaments-là, c'est dangereux. Comment est-ce que vous faites?
Nous, nous faisons des sensibilisations de proximité pour expliquer à la population ce que c'est que le médicament et ses effets sur la santé. Et surtout, les médicaments de rue qui sont tellement très dangereux pour notre santé.
Les vendeuses comme ça sur le marché, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce qu'elles vous écoutent?
Oui, elles nous écoutent. Elles nous disent que bon, oui, elles savent que ce n'est pas bien, mais seulement elles ont besoin d'une source de revenus. Vous voyez? Et on leur dit non, ce n'est pas la seule source de revenus qu'il y a. Le médicament est un produit de santé publique. On ne peut pas le vendre qui veut. il faut une autorisation préalable. Et d'abord, la loi autorise le seul pharmacien à vendre le médicament.
Mais voilà. Ces dames, quels moyens vous avez aujourd'hui de les persuader?
Oui, nous disons qu'il y a la loi, la police viendra les prendre. Et évidemment, la police fait de temps en temps des descentes pour faire des saisies. Donc, vous voyez que la dame qui est à côté, quand elle nous a vus tout de suite, elle est partie.
Enfin, on a pu rester un peu.
Oui.
D'abord, on est arrivé, on lui a demandé ce qu'elle avait, elle nous a montré.
Oui, elle nous a montré ce qu'elle vend. Elle pensait que c'est des acheteurs ordinaires.
Et on lui a acheté quelques médicaments.
On lui a acheté des médicaments. C'est ça qui nous a permis, en fait, de pouvoir connaître tout ce qu'elle vend.
Et dès qu'on a sorti le micro pour lui parler...
Elle dit non. Que quand elle a vu le micro, elle dit non, qu'elle ne peut pas parler au micro. Et elle est partie. Elle est partie laisser la marchandise.
Donc là, on est là devant les bassines pleines de faux médicaments. Et la bonne dame, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, la bonne dame n'est plus là.
Oui, elle n'est plus là. Elle est partie.
Je crois que notre dame est revenue.
Oui,
elle est... Est-ce que vous ne voulez pas lui parler dans la langue? Et puis moi, je vais l'enregistrer.
D'accord. Et maman, elle est mieux bien vivre et mieux tout carré bien. C'est ça. Donc, mi va bien vivre, mieux vivre pour nous pour atikenti, be atikia.
Elle est partie. Elle vous a pas écouté.
Elle est partie. Elle ne m'a pas écouté. Mais est-ce que je peux continuer?
Bien sûr.
Eh oui. Donc, mi va bien pour nous pour.
Malgré toute son éloquence, Alexandre Badiagouma ne parviendra pas à persuader la bonne dame de venir parler avec nous. Pas plus qu'il ne réussira à lui faire comprendre que ce sont des faux médicaments, qu'ils sont peut-être inefficaces ou au contraire extrêmement dangereux et qu'elle fait courir des risques qu'elle ne soupçonne pas à ses acheteurs. Son argument à elle, c'est d'être capable de lire les notices. Ce n'est pas le cas de tous ses clients.
Elle dit qu'elle a été à l'école, donc elle sait lire.
Est-ce qu'on peut arriver à leur expliquer combien c'est dangereux, qu'ils croient qu'ils soignent? Est-ce qu'ils arrivent à croire que ça ne soigne pas?
En réalité, nous, on leur explique que le médicament qu'elle vend n'est pas le bon. Il faut que le médicament soit dans de bonnes conditions et celui qui va le vendre, qu'il s'y connaisse. Parce que le médicament est toujours accompagné de conseils. Même si elles essaient de donner des conseils, ces conseils sont inappropriés. Donc, ce que nous essayons de leur dire, qu'elle n'a pas le droit de vendre le médicament. Parce qu'elle va mettre la vie du consommateur en danger.
Depuis le temps que vous faites ça avec votre association, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent?
Oui, ça évolue. D'ailleurs, la seule preuve que je peux donner, c'est qu'avant, à tout moment, à n'importe quelle heure, on peut voir les médicaments exposés. Mais maintenant, les médicaments ne sont pas tellement exposés comme avant. C'est à partir de 16h, 17h que les dames commencent à exposer au bord des routes et jusqu'à la nuit profonde.
Et quand on ne voit rien au marché, il suffit effectivement d'attendre un peu. Tous les soirs, des femmes sortent et passent dans les rues de Lomé avec sur la tête de grands paniers remplis de faux médicaments. Des passants demandent conseil, un chauffeur de taxi s'arrête.
Moi, je m'appelle Fabrice. Je suis chauffeur de taxi Gozen.
Je voulais vous demander, vous, comme vous vous soignez, où est-ce que vous achetez les médicaments?
Ce n'est pas permis à tout le monde d'aller à la pharmacie pour pouvoir acheter des produits pharmaceutiques. Des fois, si tu te sens mal quelque part, tu peux aller au bord de la route, payer les médicaments chez les bonnes dames pour pouvoir te guérir, quoi. On nous dit souvent de ne plus acheter les médicaments chez les bonnes dames, d'aller à la pharmacie, de voir un docteur, on te donne l'ordonnance avant de payer les médicaments. Mais si tu as les moyens là, tu peux aller à la pharmacie. Pourquoi pas? Tu vas acheter. Mais comme les moyens ne suffisent pas là, c'est pourquoi on se dirige vers les bonnes dames pour pouvoir acheter les médicaments là. Si je suis gravement malade, je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments, je vais à la pharmacie pour payer.
Qu'est-ce que vous achetez comme type de médicaments quand vous allez à la pharmacie par terre?
Des produits traditionnels, là, les racines des arbres, des zèbres comme ça, là, je cherche pour pouvoir me soigner.
Et c'est surtout comme ça que vous vous soignez?
Si c'est grave, je vais à l'hôpital.
Comment vous pouvez savoir si c'est grave ou pas?
Alors, si je traite avec des produits traditionnels, là, si je n'arrive pas, le docteur me prescrit des produits et puis je perds.
Et même pour ce qui est mal à la tête, tout ça, le Doliprane, c'est pareil de l'acheter en officine ou au marché?
Oui, oui, tu peux aller acheter ça au marché. Il y en a plein au marché. Tu achètes ça et puis tu prends. Moi, si pour acheter les Doliprane là, je vais à la pharmacie. Sans te mentir, au bord de la route là, je ne prends pas à la pharmacie. Mais si moi-même je sens des petites douleurs là, c'est en ce moment que je me dirige vers les bonnes dames.
Petit à petit, les gens ils vont davantage maintenant dans les officines que sur les marchés.
Ça dépend des moyens quoi. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens quoi. Il y en a plein qui n'ont pas les moyens. Eux ils se dirigent vers les bonnes dames. S'ils se sentent un peu mal là, ils vont aller pour payer leur produit pour pouvoir se soigner.
Je m'appelle Wateba Iustela Florence, présidente de l'Association des femmes pour la non-violence. Nous disons faux médicaments, ce n'est pas bon. Faux médicaments, plus au Togo. Oui, il y a les médicaments dans tous les marchés du Togo. Les faux médicaments, ça existe beaucoup. Moi, je me dis que c'est parce que, premièrement, les pharmaciens ne sont pas assez disciplinés. Tous les pharmaciens veulent rester à la capitale. Et dans les fermes, au-delà de Lomé, il n'y a pas de pharmacie et les gens sont obligés d'acheter les faux médicaments. Moi, je me dis que la sensibilisation doit d'abord se faire du côté des pharmaciens. Ils doivent s'asseoir, discuter, élargir leur champ d'action pour combattre le faux médicament.
Et quand vous voyez des personnes, ce qu'on appelle les bonnes dames sur le marché qui vendent les médicaments, est-ce que vous leur dites c'est dangereux, il faudrait vendre autre chose que ça, ou est-ce que bon, c'est l'habitude, alors on dit rien?
Non, le problème c'est que la population, quand nous prenons par exemple la tranche des femmes, à peine 27% des femmes savent lire. Parce que telle lui a dit, j'ai acheté tel médicament, j'ai utilisé, c'est bon, elle achète aussi. Donc cette tranche-là, qui connaît ce que c'est que la maladie, qui connaît ce que c'est que le médicament, cette tranche intellectuelle qui sait lire en réalité ne vaut pas 10%.
Dans les pharmacies classiques, il se produit parfois des scènes un peu surréalistes, comme le raconte le docteur Koundé Kpeto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Son officine est installée juste en face de l'université de Lomé.
Ce que nous voyons, des fois des gens qui arrivent dans nos officines, et qui nous demande spontanément un médicament, on cherche c'est quoi ce médicament, on ne le connaît pas. Finalement, la personne sort une boîte et vous vous rendez compte que c'est un médicament qui n'existe pas dans nos fichiers, qui n'a jamais été enregistré. Moi, je suis tombé sur un cas où on regarde sur le produit, on voit là-dedans qu'il y aurait du paracétamol, l'orthographe mal écrit. Quand on demande au patient qu'est-ce qu'il a voulu soigner, il va vous dire qu'il avait une dysenterie et qu'on lui a donné ça. Déjà, ce trafic, ce qu'on appelle la pharmacie par terre, va encourager l'automédication. Les gens déjà se trompent. À supposer qu'il y avait réellement du paracétamol dans ce cachet-là, il ne sert pas à soigner une dysenterie. On n'est même pas sûr qu'il y avait du paracétamol. Et en plus, l'indication ne correspondait pas à ce mal. Des fois, on ne sait pas ce qu'ils mélangent dedans et les gens ont l'impression réellement que ça les soulage. Ça aussi, on se pose la question, qu'est-ce que contient réellement ce type de produit ? J'ai eu aussi un cas où, dans une famille, l'enfant est malade. Moi, j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait. On me dit non, il y a son docteur est passé, on lui a donné un bon médicament là, qui le fait dormir. Quand j'ai vérifié, c'était un produit qui contenait une substance psychoactive et qui avait été acheté à la rue. Cet enfant, il fallait l'amener à l'hôpital rapidement parce que ça pourrait carrément lui entraîner un coma. C'est des situations comme ça qu'on peut avoir.
Le Togo a une production locale de médicaments infime. Depuis plusieurs années, le pays s'est doté d'une centrale d'achat de médicaments qui lance des appels d'offres, puis commande ses médicaments à l'étranger dans des laboratoires officiels et les répartit dans les structures publiques du pays. Un maillage encore insuffisant, selon la directrice de la centrale d'achat, le docteur Massimile Assi.
Il a été mesuré en fait qu'il n'y a que 67% de formations sanitaires qui répondent à la norme d'être à 5 km d'accès par rapport aux communautés. Donc il y a encore un gap important en termes d'accessibilité géographique aux médicaments.
C'est une des raisons pour lesquelles les médicaments et les informations n'arrivent pas tout à fait partout au Togo ?
C'est l'une des raisons, c'est vrai, mais il y a l'autre volet de l'accès, l'accessibilité financière, et un troisième facteur qui est lié à la disponibilité des produits, puisque les produits ne sont pas en permanence disponibles. Nous connaissons des ruptures, et donc ça ouvre la brèche à de l'illicite. Dans le subconscient, c'est mieux de prendre quelque chose que rien du tout. De ce point de vue, le marché illicite du médicament y a trouvé une opportunité de taille pour grandir, parce que la demande, elle était là. Et pour beaucoup de gens, il vaut mieux prendre ça plutôt que rien du tout. Aussi, d'un point de vue culturel, il faut savoir que le secteur informel est très développé. Et donc, ces médicaments vendus dans la rue offrent des avantages comparés au circuit licite du médicament. Je m'explique. Dans le circuit licite du médicament, vous allez dans une pharmacie, on vous vend le traitement, c'est-à-dire s'il vous faut 20 comprimés pour 5 jours de traitement, c'est ce qu'on vous vend, c'est ça qui est logique. Mais dans la rue, je n'ai que 100 francs, 100 francs correspondent à 2 comprimés, je les prends en attendant, c'est mieux que rien. Donc c'est cette perception de la chose qui fait que les gens dans le marché illicite, dans la rue, c'est plus facile pour eux. Aujourd'hui, je n'ai que 100 francs, je prends 2. Si la douleur ou le malaise se calme, c'est tant mieux. Si le lendemain, j'ai encore 100 francs, je repars encore prendre 2 ou 3. Voilà. Sans compter que dans la rue, on ne paye pas la consultation. On échange directement avec la vendeuse ou le vendeur. Et puis ensuite, si jamais la pharmacie de rue, entre guillemets, est juste à côté, donc les relations de voisinage font que même si j'ai pas de moyens, je prends un crédit en attendant. Dès que j'aurai un peu, on se fait confiance, je paierai. Donc on n'a pas tout ça dans le circuit licite, on n'a pas ces facilités dans le circuit licite. Dans le circuit licite, il y a des produits, tant que ce n'est pas une ordonnance, on ne vous les servira jamais. Et donc c'est beaucoup plus facile pour les gens avec un faible revenu de se soigner dans la rue. En tout cas, ils estiment se soigner correctement. L'autre aspect, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire des études sur les conséquences que provoquent ces médicaments falsifiés. On peut prendre un faux médicament aujourd'hui, on se détruit les reins à petit feu, et puis au bout de 10 ans, on se retrouve avec une insuffisance rénale, mais on ne fera pas forcément le lien avec la prise d'un médicament. Donc, il y a ce poids-là qui fait qu'on n'est pas en bonne santé, on se soigne mal, et on n'est toujours pas en bonne santé.
Avec l'augmentation des enquêtes et des descentes de police, le trafic se fait un peu plus discret, mais les revendeurs des pharmacies par terre sont encore tellement inconscients des dangers qu'ils font courir à leurs clients qu'ils ont même voulu à un moment faire reconnaître leur soi-disant profession.
L'année dernière, à pareil moment, on a vécu quelque chose d'effroyable pour nous professionnels. C'est qu'on a eu des vendeurs ambulants de médicaments qui sont réunis pour créer un syndicat, appeler la presse, pour essayer d'avoir une existence légale. Et ils ont fait des déclarations pour dire qu'ils créent leur syndicat pour défendre leurs droits. Bon, heureusement que les autorités ont réagi de façon très vigoureuse pour éviter qu'une telle association n'ait une existence légale. Mais c'est pour vous dire à quel point les gens, jusqu'à présent, peuvent penser que c'est normal d'aller s'acheter le médicament, je ne sais où, et de venir le mettre à disposition de la population parce que c'est un commerce. Donc voilà un peu la situation. Le grand marché de Lomé, il y a un centre important de distribution, mais quand vous y allez, il sera difficile d'identifier les boutiques qui en vendent parce que les faux médicaments, ils sont en arrière-boutique. Vous verrez peut-être une boutique qui vend des cosmétiques, mais en arrière-boutique, il peut y avoir des cargaisons importantes de faux médicaments. Il y a déjà eu une descente policière après une enquête, bien sûr, et ce qu'on a sorti était quand même effarant du grand marché de Lomé en termes de quantité, mais aussi en termes de produits, parce que aujourd'hui, ça touche pratiquement toutes les pathologies. Ce n'est plus des médicaments basiques, des antalgiques, des antipaludiques. Vous savez que le paludisme, c'est la pathologie la plus lourde et qui fait beaucoup de dégâts, surtout chez les enfants dans nos pays. Et quand on se rend compte que ce type de médicaments sont falsifiés, qui n'ont pas la qualité requise, ça fait quand même peur. Et pour nous, professionnels, quand on voit ça et quand on imagine les conséquences derrière, c'est effroyable.
Inye, oh,
Au Togo, les ports et les aéroports sont sous étroite surveillance, équipés de matériel de détection et de scanners. Mais le maillon faible du pays, c'est la frontière terrestre. Pour l'exemple, la frontière avec le Ghana voisin passe dans une banlieue urbaine de la capitale, Lomé. Impossible donc de vérifier chaque camion de groupage, ce qui regroupe plusieurs livraisons à effectuer à travers la frontière en un seul gros transport.
Je suis le colonel Kondi, Kondi Yao Kidingan. Je suis un officier de gendarmerie et directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Les trafiquants sont comme ces maladies opportunistes là, qui se greffent sur un organe très bien portant. Et donc, ils utilisent les infrastructures, mais aussi les dispositions communautaires qui assurent la liberté de déplacement des personnes et des biens. Et donc, ils utilisent, par exemple, c'est des gros camions qui transportent des marchandises. On n'ouvre pas, on ne décharge pas toutes ces cargaisons au niveau de la frontière, ce qui ferait entrave donc à cette liberté donc, de mouvement et de commerce. Et éviter d'encombrer les points de passage au niveau des frontières. Les saisies opérées sont donc faites sur des personnes qui ont des quantités moyennes dans leur bagage, des profils donnés, des personnes à risque de saisie moins grandes que les grosses cargaisons dans les camions.
Oui, ça va. J'espère que le commissaire t'a appelé. Bon, prends les clés du magasin. On doit filmer.
Non loin du port de Lomé, les saisies de faux médicaments s'entassent dans une cour du bâtiment des douanes. Ces saisies sont régulièrement incinérées, mais cette année, elles ont été massives. Des tonnes de cartons s'entassent donc les uns sur les autres en plein vent, sous un simple toit de tôle dans une arrière-cour où nous amène le chef des douaniers.
Je suis Agoro Medisirivi, colonel des douanes.
Là, on va aller voir une partie des saisies que vous avez faites déjà, c'est ça?
Oui, oui.
Alors, on vous suit?
Une série de produits ont été saisis à l'issue de certaines opérations de nos services de lutte contre les trafics illicites. Et c'est ces produits-là que vous voyez déjà en face.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on voit là ?
Il s'agit des médicaments illicites, des produits pharmaceutiques contrefaisants. Donc nos services de brigade ont réussi dans des chargements à prendre quelques cartons ou tout un chargement composé de produits contrefaisants ou illicites.
Alors là, par exemple, de quoi s'agit-il?
Ici, je crois bien que c'est des gélules.
Qui d'ailleurs n'ont aucune étiquette, on ne sait pas du tout ce que c'est.
C'est ça le danger.
Ça veut dire que ça va être étiqueté ensuite au Togo?
Effectivement, des fois, ils ont des étiquettes pour tromper la population, mais qui ne sont en réalité que des placebos.
Alors dans l'autre carton, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que c'est ça maintenant?
C'est aussi des produits pharmaceutiques. Comme vous le constatez, c'est contre les douleurs lombaires. Et on ne sait pas si ces produits contiennent des principes actifs à même de calmer les douleurs effectivement.
Et encore après, là on a du sirop. Il y a un nom de laboratoire, il y a quelque chose d'écrit?
Même si c'est écrit pour la douane, ça paraît être un produit illicite, vu que le circuit qu'il a emprunté est un circuit irrégulier, impropre à l'importation des produits médicamenteux dans notre pays. Le vrai médicament ne transite pas par la route, a priori, c'est ça qui aiguise notre flair. Un vrai médicament se doit de suivre le trafic aérien. Dès lors qu'un circuit est d'ordre terrestre, le douanier ouvre ses yeux.
Est-ce que c'est sur renseignement? Est-ce que c'est autrement?
Bon, le renseignement joue nécessairement. Mais aujourd'hui, le travail du douanier se fonde sur l'analyse du risque. Si peut-être 3 véhicules viennent de la même zone ciblé par nous comme une zone de contrefaçon, on soumet à la fouille systématique.
Le travail des douanes et des stupes est encore compliqué par la prolifération des trafiquants. En plus des réseaux de crimes organisés, de plus en plus d'amateurs se sont improvisés trafiquants.
ceux qui font du trafic de médicaments, qui vont aller fabriquer quelque chose qui leur coûte 100 francs quelque part pour venir le mettre sur le marché à 1000 francs. Vous imaginez les gains importants de ce trafic. On était tombé avec la police judiciaire sur une situation où c'était des antipaludiques qui ont été contrefaits, qui étaient introduits ici et au Ghana voisin. Donc il y avait une coopération policière entre les deux pays qui a permis de mettre la main sur le trafiquant. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a découvert? Celui qui faisait venir ces médicaments, c'était quelqu'un qui au départ faisait du commerce de matériel de construction ou d'autres choses, mais qui a découvert en allant en Asie que trafiquer de médicaments était plus intéressant. Donc on compare ce trafic au trafic des drogues, mais dans nos pays, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui font le commerce d'autres choses qui du jour au lendemain se disent « mais le médicament apparemment c'est plus intéressant ». Récemment, on s'est demandé si le prochain Pablo Escobar sera peut-être voilà, un pharmacien en herbe ou en tout cas un trafiquant de faux médicaments avec le même objectif, gagner de l'argent.
Au-delà des petits trafiquants ou du crime organisé, se profile aussi un autre danger. Ce trafic très prospère intéresse et de plus en plus ceux qui sont en perpétuelle recherche de financement illicite, les bandes armées et les groupes terroristes. Jean-Louis Bruguière est ancien juge antiterroriste.
On parle du financement du terrorisme, savoir le trafic des médicaments, ça représente quoi? Alors je ne vais pas vous répondre, parce qu'une partie des éléments aujourd'hui ne sont pas ouverts, pas publics. Ils procèdent donc d'études faites par des services de renseignement. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est documenté, le Hezbollah a utilisé les faux médicaments pour financer des activités à caractère terroriste. Le Hamas en a fait de même, là on n'est pas. Al-Qaïda avait demandé également de recourir à des trafics en tout genre, et surtout de la contrefaçon, y compris de médicaments, pour financer les opérations. Et que donc on sait aujourd'hui que dans la zone sahélo-saharienne, en raison du fait qu'il y a une pénurie de financement, il n'y a plus d'enlèvement, l'ensemble des organisations qui jadis étaient financées, y compris Boko Haram, organisation extrêmement importante au Nigeria, et ses filiales, et également l'État islamique dans l'Ouest africain, étaient financées en partie jusqu'en 2015 par l'État islamique, donc par de l'argent qui venait, ce qui n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, il y a un retour sur les autofinancements qui se font sur la zone et en partie sur les trafics. Et nous savons, mais je ne peux pas vous donner de chiffres, la part du financement, elle est croissante. Hein. Elle va devenir exponentielle. Voilà tout ce que je peux vous dire.
Ce trafic, le général Marc Foucault l'a vu grandir dans la bande sahélienne alors qu'il commandait l'opération militaire française Serval.
Très humblement, je dirais qu'au départ, je n'étais pas conscient de l'importance de ces trafics. Et au début de l'arrivée de Serval, je pense que les trafics passaient par d'autres voies, parce que c'était une zone de conflit. Et au fur et à mesure que la situation s'est normalisée, on a vu réapparaître de plus en plus de commerce et donc le trafic qui va avec. Comment ça se matérialisait? Bon, on sentait bien que les groupes cherchaient à tenir des positions. Et ces positions leur servaient en quelque sorte de comptoir qui leur permettait de prélever des taxes sur tout ce qui passait. On a bien vu que d'abord il y avait une vraie bataille entre les groupes pour s'emparer de points de contrôle et de carrefours stratégiques au niveau des routes du trafic. Je dois même avouer qu'en mai 2014, on a assisté à une bataille rangée entre des groupes pour s'emparer d'un carrefour et qui a eu au moins une dizaine de morts. Donc il y a de vrais enjeux derrière, ce sont des enjeux financiers. Une guerre, ça coûte cher pour nous, comme pour les groupes armés. Il faut bien la financer. Et le gros du financement, il ne vient pas de l'extérieur, il vient des trafics. C'est drogue, c'est être humain, c'est armes légères, bien évidemment médicaments. Et j'ai pu voir que c'était une vraie activité économique qui rapportait beaucoup d'argent, en particulier dans les pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai eu à m'intéresser aux médicaments et je me suis aperçu que c'était un marché immense et qui suivait les mêmes routes. C'est exactement la même organisation. Les routes du trafic sont les mêmes, les groupes et les réseaux criminels sont intimement liés, c'est clair, et sont parfois même les mêmes qui trafiquent ou mènent des actions armées.
Permettez-moi tout d'abord mesdames et messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à Lomé à l'occasion de cette initiative sur la lutte contre les faux médicaments. Le peuple togolais est heureux et fier de vous accueillir.
En ce début d'année, plusieurs chefs d'État africains se sont retrouvés ici au Togo pour lancer l'initiative de Lomé. Pour la première fois, 6 chefs d'État ou leurs représentants ont fait le déplacement pour signer un tel accord de coopération et d'action concertée en présence du directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
One thing which makes this
L'une des raisons pour lesquelles cette initiative est très importante, c'est qu'elle prend en compte les autres problèmes liés au trafic. Comme vous le savez, des réseaux criminels sont impliqués dans ce trafic de faux médicaments et ces criminels ont des liens avec les groupes terroristes et ça peut contribuer à déstabiliser nos pays. Donc cet aspect criminel est important. La coopération entre pays est capitale et un engagement politique au plus haut niveau est très très important. Nous avons un système global de surveillance et nous échangeons les informations entre tous les pays. Nous avons 3 choses à faire. De la prévention, de la détection précoce, et enfin, réagir fermement. En matière de prévention, il faut améliorer la prise de conscience, aider les pays à préparer leurs réponses judiciaires, bâtir un système de distribution du médicament et partager ces informations. Bien sûr, il faut que les réponses à apporter soient les plus rapides possibles. Et je le redis, nous sommes très impliqués pour faire grandir cela. Les pays se rassemblent pour travailler sur ce sujet. Nous plaidons pour les mêmes choses. Parce qu'en travaillant ensemble, cela fonctionne mieux et cela peut aider à renforcer réellement les capacités de lutte des pays, de la sous-région et de tout le continent.
Dans toute l'Afrique, le trafic de faux médicaments ou de médicaments falsifiés est très peu sanctionné. Les peines encourues concernent essentiellement des infractions à la législation sur la propriété intellectuelle. Pour Jean-Louis Bruguière, il y a donc urgence à légiférer.
Un des problèmes qu'on va tâcher de régler rapidement est celui de la criminalisation. Car aujourd'hui, dans l'ensemble des pays africains, il n'y a pas ou pas assez d'infractions, en tout cas les infractions sont mal qualifiées, dans ces pays il n'y en a pas du tout, les peines sont très basses. Aujourd'hui, des trafiquants peuvent être condamnés simplement à des amendes ou à des peines de prison ridicules, donc il n'y a aucun effet de dissuasion. Et deuxième chose, on va proposer, engager, inciter chaque État membre à incriminer, comme on dit dans le jargon judiciaire, c'est-à-dire à créer des infractions nouvelles, spécifiques à la fois au trafic, et à la fois la distribution, est assortie de peines lourdes, de peines qui, de mon point de vue, pour les trafiquants, ne doivent pas être inférieures à 15 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire arriver à un niveau pénal qui soit à peu près équivalent à ce qui existe partout en Europe, mais aussi en Afrique, concernant le trafic des stupéfiants. Cet élément-là va être un élément de dissuasion, parce que comme on l'a dit aujourd'hui, un rendement extrêmement élevé, un coefficient de 500, donc il est certain qu'en agissant sur le problème de la pénalisation, et ça peut être fait relativement rapidement, c'est un problème législatif, on va élever donc le facteur dissuasif qui est important.
Une fois posé ce cadre législatif et répressif, les pays pourront enfin se lancer dans le grand chantier qui permettrait de se débarrasser des faux médicaments de façon pérenne, une assurance maladie, une vraie couverture de santé universelle. Le professeur Mustapha Omidjiawa est ministre de la Santé au Togo.
Au cours des 10 dernières années, nous avons eu à intercepter des dizaines de tonnes de faux médicaments. Aujourd'hui, quand on prend au Togo les médicaments des pharmacies par terre, bien évidemment, majoritairement comportent du faux. Il n'est pas exclu que dans les officines classiques, il n'y ait pas du faux, comme dans les autres pays. Si vous prenez aujourd'hui les formations sanitaires, tant que vous n'avez pas mis en place un système les rendant attractifs et accessibles, bien évidemment, la porte de l'irrégulier sera ouverte. Une initiative comme l'Institut National d'Assurance Maladie, donc une assurance au profit des fonctionnaires qui touche à peu près 6% des Togolais, dans ce lot de compatriotes, la tendance a été réduite. De la même façon, Lorsqu'on a mis en place que les enfants peuvent aller dans les formations sanitaires sans que leurs parents n'aient le devoir d'emblée de débourser de l'argent, ça conduit ces enfants à aller plus souvent dans les formations sanitaires. Donc aujourd'hui, si vous additionnez, ça vous couvre à peu près un tiers de la population. On est en train de mener maintenant des actions pour voir comment étendre la couverture maladie au secteur informel, qui est quand même un gros morceau. C'est l'une des voies de lutte contre le recours aux médicaments contrefaits.
Vous savez que nos États sont engagés pour la couverture santé universelle à l'horizon 2030.
Koundek Petouf.
Comme un objectif majeur. Et cette couverture santé universelle serait un vain mot si on ne sécurise pas un peu plus le médicament dans nos pays. Parce que couverture santé universelle va vouloir dire plus de génériques. Si on n'arrive pas à maîtriser tous nos circuits et à faire en sorte qu'on dissuade toutes les tentatives d'introduire de faux médicaments sur nos marchés, on arrivera à une situation où on aura bien couvert les gens, on aura dépensé des ressources, mais malheureusement, les gens ne soigneraient avec ces médicaments qui ne seraient pas de bonne qualité. Il y a les dégâts sur la santé publique, les morts qui se comptent maintenant par milliers, et quand vous voyez les chiffres, ils sont effarants. Et puis, on s'est rendu compte que ce trafic rapportait tellement d'argent que réellement ce trafic alimenter des réseaux criminels, notamment financer les crises dans certains pays, le terrorisme et autres. Tout ça, sûrement, ne laisse pas indifférents nos chefs d'État qui sont engagés contre tous ces fléaux-là.
Mais le chemin est encore long. La pandémie de Covid-19 a fait flamber en Afrique la demande de chloroquine, d'hydroxychloroquine, de tests et de masques qui ont aussitôt trouvé leurs équivalents contrefaits dans les pharmacies par terre. La Fondation Brazzaville, à l'origine de l'initiative de Lomé, a lancé un appel pour que d'autres pays africains rejoignent les pays signataires pour renforcer la lutte contre un fléau devenu plus lucratif aujourd'hui que le trafic de cocaïne.
Faux médicaments, la plaie de l'Afrique, un reportage d'Isabelle Souquet avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Aline Planson, auteure du livre « Faux médicaments, un crime silencieux », est l'invitée de Grand Reportage. Alors vous avez longtemps travaillé à Interpol, Aline Planson, vous y étiez engagée dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments et la criminalité pharmaceutique. Avec vous, j'aimerais qu'on remonte à la source de ce trafic. Où et comment ces faux médicaments sont-ils produits ?
Alors, ces médicaments sont produits à travers une chaîne criminelle bien établie, avec d'une part les réseaux qui vont fabriquer les principes actifs, que ce soit à travers des sociétés d'importation. Donc vous avez parlé de la Chine, de l'Inde et du Pakistan qui produisent plus de 80% des principes actifs dans le monde, ou alors une production locale. Et puis ensuite, il y a une chaîne d'autre part plus logistique de distribution, de packaging et évidemment de vente semi-grossiste et au détail.
Et alors la fabrication, elle est artisanale, elle est industrielle ?
Alors, quand nous avons commencé à regarder de près les modus operandi criminels, donc dès 2005, il y avait une part tout à fait sophistiquée et une part très artisanale. Et nous avons pu observer une sophistication des trafics pour maintenant être beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus précis que ce n'était dès 2005.
Ce qui veut dire qu'il y a des usines de fabrication de faux médicaments ?
Absolument.
Et qui se concentrent surtout en Chine ?
Alors, les usines de fabrication de faux médicaments se trouvent un peu partout dans le monde. Et la Chine, en revanche, et l'Inde ou le Pakistan constituent le noyau de production des principes actifs. Donc c'est là que les trafiquants vont aller puiser la matière pour ensuite la transformer et créer le faux médicament. Ça ne veut pas dire que toutes les industries criminelles sont basées là-bas. En revanche, ces pays sont stratégiques et extrêmement importants pour les criminels de façon à se fournir en matière première.
Alors, matière première, parce que il y a donc bien les composantes d'un médicament. C'est pas simplement du talc ou du sucre.
Oui, on voit une sophistication aussi dans la qualité de la contrefaçon du médicament. Et bien souvent, même s'il n'y en a pas assez, ou alors il y en a beaucoup trop, ou alors il y a un peu de principe actif et d'autres ingrédients, il y a quand même une trace d'ingrédients ou de principes dans les médicaments falsifiés.
Il y a une volonté que ça ressemble vraiment aux médicaments.
Absolument. Et d'ailleurs, l'expérience a montré qu'il était impossible à l'œil nu de distinguer un faux médicament d'un vrai sans faire une analyse de laboratoire chimique.
Mais vous le disiez, le principe, il n'est pas assez ou trop présent, ce qui va avoir des conséquences sur la santé du patient qui consomme ce type de produit.
Absolument. Les conséquences sanitaires ont été évoquées. C'est dramatique pour la santé des gens à court terme parce que on parle de 200 à 600 000 victimes par an, mais également à long terme. Et là, il est question de résistance aux maladies face à l'absorption de médicaments qui sont de mauvaise qualité et qui sont copiés comme étant des vrais.
Et alors, plutôt que de s'en prendre aux petites vendeuses qu'on a entendues dans le reportage d'Isabelle Souquet, est-ce qu'on peut s'en prendre aux producteurs directement ?
Oui, bien sûr. L'idée est de remonter la chaîne criminelle. Donc, il y a un point de départ qui peut être sur le marché, dans la rue ou alors auprès de la victime ou du patient pour remonter la chaîne criminelle jusqu'au producteur. Et c'est évidemment ce que les polices cherchent à chaque fois à remonter. En revanche, la complexité du trafic, les intérêts financiers majeurs en jeu et l'internationalisation des chaînes logistiques font qu'il n'est pas toujours évident de remonter à la source et de remonter l'entièreté de la chaîne criminelle pour une police.
Et par où passent-ils ces faux médicaments avant d'arriver à destination en Afrique ou également en Europe et aux États-Unis ?
Les modes de transport sont assez classiques. Il y a à la fois transport aérien, transport maritime beaucoup. Il y a eu des opérations très ciblées sur des ports, notamment en Afrique, avec des opérations qui ont permis la saisie de millions de doses thérapeutiques. Et aussi par voie routière et maintenant avec Internet par voie postale.
Et donc ça arrive directement ou est-ce qu'il y a des points de transit dans cette chaîne d'approvisionnement ?
Alors, tout dépend des trafics. Si vous imaginez un trafic très sophistiqué avec une chaîne logistique rodée, il y a des points de transit et souvent les trafiquants font transiter les produits par des pays type européens pour effacer ou en tout cas permettre de ne plus avoir une visibilité sur la source du produit et faire croire que c'est un produit qui vient d'Europe, donc qui est censé être bon et de qualité, avant de les distribuer.
Alors, on a entendu dans le reportage d'Isabelle Souquet au Togo que les acheteurs ne mesurent pas le risque qu'ils prennent avec leur santé. De même que les bonnes dames, comme on dit, qui vendent les faux médicaments, se considèrent comme des commerçantes comme les autres. Elles n'ont pas l'impression de faire quelque chose de grave. Il y a même eu ce projet de syndicat de marchands ambulants. Donc, la première réponse, est-ce que ça n'est pas un travail de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation à la santé ?
Ah oui, absolument. Les victimes n'ont pas toujours conscience d'être victimes. Les professionnels de santé ne vont pas toujours chercher le faux médicament comme une cause de mortalité ou alors comme une cause de maladie, au même titre effectivement que les vendeurs n'ont pas toujours conscience que leur commerce peut tuer. Effectivement, personne ne vendrait des faux médicaments ou personne n'en achèterait s'ils pensaient que ça tuerait leur enfants ou eux-mêmes, au lieu de les soigner.
Donc là-dessus, il faut absolument faire ce travail de sensibilisation sur le terrain, à proximité des gens.
C'est essentiel. À partir du moment où la prise de conscience individuelle et collective est plus ancrée, et si en parallèle il y a des actions concrètes, oui, la part de faux médicaments vendus sur les marchés pourrait être réduite. À l'heure actuelle, la configuration pour les criminels est un profit énorme avec un risque de sanction minimal. Donc ils ne vont pas arrêter les trafics. Seul, en complément de ce qui est fait d'un point de vue institutionnel, seule une éducation évidemment, des citoyens et des marchands ambulants peut avoir un impact sur ces trafics.
Et vous partagez donc l'analyse de Jean-Louis Bruguière qui juge indispensable de durcir les peines encourues.
Oui, évidemment, je trouve que c'est indispensable non seulement de les durcir, mais aussi de les appliquer. Il y a des lois en vigueur qui ne sont pas toujours ou qui devraient être appliquées plus spécifiquement, avec à l'appui des formations pour les magistrats notamment, et puis un durcissement, une généralisation de la criminalisation de ces trafics, de façon à ce que les trafiquants ne se sentent plus seuls maîtres à bord.
Et est-ce que pour vous, tous les trafics de médicaments se valent? Alors, je précise ma pensée. S'il s'agit d'une copie exacte d'un médicament, il y a bien un préjudice pour le laboratoire détenteur du brevet, mais pas forcément pour l'acheteur. Là, c'est comme un médicament générique. Alors que si c'est une autre substance ou un mauvais dosage de la molécule, là, il y a véritablement danger pour la santé du patient. Est-ce qu'on peut imaginer une gradation des peines?
Alors, pour ce qui est des trafics, à partir du moment où il y a l'intention criminelle, le volet propriété intellectuelle ne rentre pas en compte. Et pour qualifier cette criminalité, comme par exemple le Conseil de l'Europe l'a fait à travers la Convention Medicrim et la définition des trafics de faux médicaments et les sanctions inhérentes, il est important de déterminer l'intention de tromper le patient ou pas. Donc, si c'est un médicament qui ressemble exactement au produit du producteur de marque, mais qui a exactement les mêmes molécules, à partir du moment où il n'y a pas d'enregistrement légal, où il y a une intention de le vendre sans déclaration, il y a une criminalité qui doit être mise à jour et être punie.
Alors, vous avez cité la convention Medicrim qui a été élaborée par le Conseil de l'Europe. C'est un mécanisme international criminalisant le trafic de faux médicaments. Mais elle n'est entrée, cette convention, en vigueur que dans 16 pays. Et je crois que 3 pays africains seulement l'ont ratifiée. Est-ce qu'elle est d'une réelle utilité?
Oui, absolument. Elle pose les bases légales de ce que pourrait être une structure législative de sanctions de trafic de faux médicaments. Donc, elle propose de façon assez générale et qui peut être applicable et transposable dans tous les pays qui le souhaitent, ce système de sanctions.
Et alors, on entendait dans le reportage d'Isabelle cette initiative de l'OMÉ, donc accord international, là aussi, criminalisant le trafic de faux médicaments au niveau de différents pays d'Afrique. Est-ce que c'est un nouveau vœu pieux ou est-ce que ça peut vraiment permettre d'avancer?
Bon, disons que c'est une pierre de plus sur ce qui a été posé les années précédentes et sur le chemin du meilleur. L'idée est de continuer dans la mesure où la lutte contre ce trafic n'est clairement pas une volonté encore politique forte affichée. Globalement, j'entends, ce genre de sommet est essentiel.
Alors, vous dites essentiel, mais c'est vraiment un tout petit caillou encore. On voit que, je crois que c'est le Nigeria qui est la principale porte d'entrée de faux médicaments sur le continent africain. Or, ce pays n'a pas l'air de vouloir se mobiliser pour l'instant avec ses voisins. Ça risque de ruiner leurs efforts, non?
Le Nigeria est considéré comme, en termes de grandeur et de proportion, les États-Unis de l'Afrique. Donc oui, c'est le pays qui connaît le plus de défis et de nombreux trafics et trafiquants de faux médicaments, en même temps que l'arrivée de médicaments, l'importation de faux médicaments. Donc il est confronté à des défis majeurs. Il est entouré aussi de pays francophones, donc les cultures sont différentes. Et l'expérience que j'ai pu avoir à coordonner des opérations dans cette région avec le Nigeria et ses pays voisins montre qu'il y a une possibilité, quand la volonté est là et elle y est, de mener des actions concrètes pour lancer des messages et concrètement stopper des flux de faux médicaments.
Donc il faut que les États se mobilisent. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail en Afrique. Le trafic prospère parce que les médicaments sont chers, parce qu'il n'y a pas de pharmacie partout. On l'entendait, parce qu'il y a des ruptures de stock. Donc il faudrait améliorer les systèmes de santé. Il y a aussi une nécessaire lutte contre la corruption.
Oui, absolument. La lutte contre les faux médicaments se fait en parallèle avec la consolidation des systèmes de santé, comme vous venez de le dire. Aussi, l'éducation des pharmaciens. Très récemment, seulement des modules de formation au sein d'écoles de pharmacie sur les faux médicaments sont en cours de pilotage. Donc, toutes ces initiatives sont essentielles et doivent être menées en parallèle à la lutte contre les trafics.
Lutte menée donc entre autres par Interpol, vous avez pu effectuer de beaucoup de filets, arrêter des gros bonnets. Est-ce qu'il y a vraiment des succès importants dans cette lutte contre le trafic?
Des succès, si vous voulez, les succès sont d'avoir pu mettre en phase des agences de police, régulateurs de santé, aussi des douaniers, le secteur privé et la société civile ensemble pour mener des actions coordonnées pour lutter contre ces faux médicaments. Ça, c'est la plus grande victoire. Après, en termes de chiffres, la tête tourne, si vous voulez, et personne n'était prêt à faire face à autant de volumes de médicaments illicites. À titre d'exemple, une opération rien qu'au Burkina Faso en janvier-février de l'année dernière a permis la saisie de 30 tonnes de produits de santé illicites. Donc un seul pays qui a coordonné ces actions et ça a permis de démanteler des réseaux criminels. Donc il y a plusieurs succès, si vous voulez, en termes de coordination d'action, acteurs qui sont complémentaires, qui se parlent et qui concrètement font des choses ensemble, et puis des résultats malheureusement qui sont très alarmants.
Donc on démantèle régulièrement des réseaux, mais si je comprends bien, il y en a toujours de nouveaux et ça continue d'augmenter.
Ah oui, absolument. À partir du moment où on reste dans cette configuration gain énorme et sanction, en tout cas peine minimale, les criminels vont continuer. Donc un réseau ferme, une autre ramification va se mettre en place. Ils sont très puissants.
On a entendu aujourd'hui l'exemple du Togo, mais il faut évidemment souligner que les Africains ne sont pas les seules victimes. Et en France aussi, de faux médicaments circulent.
Oui, absolument. Le trafic est mondial. Il n'épargne aucun pays, même la France, effectivement, qui est extrêmement protégée. Et les Français sont confrontés au trafic de faux médicaments, notamment à travers Internet.
Donc, en vente en ligne, on peut trouver très facilement des médicaments qui ne sont pas légaux. Et on ne le sait pas forcément.
Exactement. Les criminels ont cette capacité de faire croire qu'ils sont professionnels. Et quand vous allez en ligne, vous cherchez une pharmacie en ligne, sans même le savoir, vous allez tomber sur des sites enregistrés pharmacie quelque chose et avec un vendeur, en tout cas une personne en blouse blanche, avec un site qui a l'air tout à fait sérieux. Derrière cette image et cette vitrine se cachent des réseaux de trafiquants qui vont aller puiser la commande pour aller rechercher les produits et les envoyer par différents biais postaux aux consommateurs, évidemment sans aucun contrôle de qualité, ni de source, ni d'origine du produit.
Donc là, il y a un véritable appel à vigilance à lancer. Les consommateurs doivent vérifier ce qu'ils achètent, ce qui n'est pas forcément très compliqué à faire d'ailleurs.
Absolument. Alors, c'est un appel, absolument d'accord. 95% des pharmacies en ligne sont fausses, donc vigilance absolue. Et l'Union européenne a mis en place des logos sur chaque e-pharmacie légalisée, enregistrée par chacun des pays européens. Donc, par exemple, pour la France, les pharmacies en ligne qui sont autorisées à vendre des médicaments en ligne sont toutes enregistrées sur le site de l'Ordre des pharmaciens français. Il est possible donc pour le patient d'aller vérifier ou en tout cas d'aller chercher une pharmacie en ligne à travers ce biais.
Merci beaucoup Aline Plançon. Je rappelle le titre de votre livre « Faux médicaments, un crime silencieux » paru aux éditions du Cerf. « Faux médicaments, la plaie de l'Afrique », le grand reportage de cette semaine était signé Isabelle Souquet. Réalisation Annie Bro avec Inès De Bruyne à la technique. Merci beaucoup à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France et vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.